Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue une nouvelle fois à votre rencontre hebdomadaire de la danse à Montpellier avec Les Mans en Chaussures, votre émission dédiée à la danse. La dernière fois, on s'était quitté avec cette idée de déshabiller les théâtres. On était en train d'explorer la notion d'espace et comment sortir de l'idéologie héritée de la Renaissance, comment cet espace objectivé et complètement... mesuré au millimètre près, comme dirait le générique, et comment ces chorégraphes ont essayé de nous donner des routes différentes pour sortir de cet espace complètement objectivé. Aujourd'hui, nous sortons un peu de ce chemin-là et nous recevons une invitée très chère, une danseuse, pédagogue et formatrice et autrice, de la même façon que Sonia, qui nous avait aussi accompagnés. Françoise Texier, bonjour.
Bonjour, merci de votre accueil.
J'aimerais que tu te présentes un peu en quelques lignes toi, ta pratique et un peu ton expérience, même si c'est très long. Mais
je vais essayer de faire court. Ma pratique, c'est la danse contemporaine depuis toujours. Je suis actuellement formatrice pour le diplôme d'état de professeur de danse, mais aussi j'ai des ateliers qui développent la créativité avec des groupes amateurs. Et ça se passe à la coopérative des arts, dont mon association qui s'appelle Fais et Gestes est sociétaire de cette coopérative. Voilà, et du coup, j'anime des ateliers danse et expression vocale, des ateliers de création. J'ai un groupe de création amateur et on développe une pièce chorégraphique sur 2 années. Voilà. Et puis, j'ai aussi un cours hebdomadaire que j'anime avec deux jeunes danseuses qui s'appellent Élise Pilois et Karina Pantaleo le mardi soir. Donc, le cours hebdomadaire fait 1h30 et les ateliers du dimanche matin font 3h.
Ok. Et ces deux danseuses sont aussi, elles ont été formées par toi ou ils sont ailleurs?
Elles sont intermittentes du spectacle.
Ok.
Voilà. Et elles enseignent. Je les ai rencontrées au fil de mon long chemin de formation en danse.
D'accord.
Karina, je l'ai rencontrée il y a très longtemps en danse contact improvisation.
Mm-hmm.
Et Élise, oui, effectivement, je l'ai rencontrée à l'école Epsidance où j'enseigne aussi en formation professionnelle.
D'accord. On avait reçu Marie
voilà.
Ici, invitée aussi à l'émission. On va commencer. Donc, c'est l'association Fais et Gestes, en pluriel.
Fais et Gestes.
Et cette idée vient d'où?
Ça vient du fait que j'ai énormément de plaisir à observer les gens qui dansent, les corps qui dansent, et à les accompagner pour aller vers une, à la fois vers une meilleure maîtrise de mouvement et aussi à développer leur créativité.
Okay.
C'est-à-dire à partir de leur maîtrise corporelle que j'essaye de leur transmettre, eh bien, on pratique beaucoup l'improvisation aussi pour écrire la danse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens écrivent un petit peu leur propre mouvement à partir des notions que je leur donne.
Mm-hmm.
Voilà.
Des notions, par exemple, comme...
Travailler l'axe, les appuis, l'équilibre, le déséquilibre, des notions comme ça, en lien avec, entre partenaires, mais aussi avec l'espace et avec surtout la musicalité.
La musicalité.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut trouver le bonheur par la danse? Et tu avais changé ma question. tu l'avais réécrite.
Je ne me souviens pas, j'espère.
Et
que
tu avais écrit « Comment la danse peut-elle induire un état de bonheur ?» Comment tu pourrais répondre à ta propre question?
Ah ben ça, c'est très facile. Je crois que les gens, ils dansent soit par passion, et ils en font un métier, s'ils s'y consacrent totalement, soit ils le font aussi par passion, mais aussi par plaisir, et ils le font pour obtenir du bien-être. Voilà. Très souvent, je vois le mardi soir, on a des gens qui arrivent avec une mine fatiguée de leur journée. Ce sont des gens qui travaillent et ils ressortent tout sourire en pleine forme.
D'accord. Donc la pratique elle-même induit...
La pratique, danser, c'est euphorisant. C'est exactement comme chanter.
Mmh.
Hein, ce sont des pratiques extrêmement euphorisantes. Donc quand on a donné le meilleur de soi à travers le mouvement pendant une heure et demie ou plus, eh bien on est heureux.
Et donc dans ton expérience d'enseignement et de ces partages de la technique, quel piège devrait-on éviter pour ceux qui commencent ces longs chemins de la pédagogie?
Alors ça dépend si on veut devenir professionnel ou si on a une pratique amateur, hein, mmh. que j'aime beaucoup aussi. Dans les deux cas, redis-moi la question, là, j'ai pas...
Les pièges qu'il
les
faut éviter.
Les pièges à éviter. Déjà, choisir son enseignement et son enseignant pour se sentir vraiment pleinement en accord.
Mmh.
Choisir la pratique qui nous convient. Parce que la danse, c'est très, très vaste. Ça peut être, on peut faire des cours de tango, des cours de Bharatanatyam, de danse africaine, de danse libre.
Bharatanatyam, je ne connais pas du tout.
C'est la danse classique de l'Inde.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a 1000 façons de danser. Et surtout, actuellement, je vois qu'il y a beaucoup de techniques de danse libre.
Oui, aussi. Intuitive, libre.
Intuitive, la danse des cinq rythmes. Mmh. Il y a tout ça d'ailleurs au studio La Nef où j'enseigne.
Oui. Bientôt, on aura une autre grande figure importante du studio La Nef qui viendra nous faire un point beaucoup plus précis sur les activités de La Nef.
Oui.
C'est un lieu que mes auditeurs, auditrices commencent à être un peu sensibilisés. Avec les intervenants qui peuvent venir parler au micro. Donc, tu avais parlé, c'est ça aussi, c'est que ce qui m'avait plu de la formulation que tu avais donnée, c'est trouver la technique qui convient à la personne. Donc, parce qu'au début, on pourrait penser qu'il y a une école et que la personne doit s'inscrire là et c'est fini. Et tandis qu'il y en a aujourd'hui avec, et même avant, mais on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs techniques qui sont adaptées pour, selon les parcours de la personne, selon sa capacité aussi de mental et physique, non?
Oui, tout à fait. Ça dépend aussi de l'âge de la personne, hein, ce qu'elle recherche, mais aussi, j'ai oublié la question, c'est...
Là, c'était sur les pièges.
Ah oui, les pièges à éviter, c'est d'aller dans une technique qui ne nous convient pas. Il y a des techniques de danse qui sont extrêmement puissantes et rigoureuses, mais elles ne sont pas faites pour tous les corps.
Mmh.
Voilà. Il y a d'autres techniques qui pratiquent en parallèle avec les techniques somatiques. Et
ouais.
Moi, j'ai longtemps travaillé en analyse du mouvement dansé.
Oui.
Donc, qui est une technique
un peu fait
somatique.
Ou...
Non, c'est l'analyse du mouvement dansé. C'est une technique, c'est même pas une technique. Comment je pourrais le nommer? C'est un travail
c'est
de conscience et de maîtrise du mouvement.
Pas du tout.
Non, la technique, l'analyse du mouvement dansé a été créée au XXe siècle par Hubert Godard et Odile Rouquet.
Ah, d'accord, oui, on
voilà.
avait parlé de...
Elle a été enseignée dans le cadre du diplôme d'État.
Mm-hmm.
Donc c'est là que moi j'ai rencontré Christine Lantéric, avec laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans, qui était quelqu'un de très très pointu. Je dis « était » parce que malheureusement elle a disparu aujourd'hui. Ah. Mais c'était quelqu'un avec qui j'ai énormément appris et je crois que je ne pourrais pas enseigner comme j'enseigne aujourd'hui si je n'avais pas travaillé avec elle.
Ok.
Donc moi je travaille beaucoup, beaucoup avec la conscience du mouvement et avec l'improvisation structurée, guidée et consciente.
Mmh. On avait mentionné Hubert Godard quand il avait parlé du pré-mouvement.
Tout à fait.
On est en train de parler d'une notion du phrasé et on avait évoqué L'Anna Cruz de Dalcroze et Les Pommes Vents de Hubert Godard, ouais.
Tout à fait.
Très bien. Alors, il y a une autre catégorie qui rentre en compte avec ta pratique, c'est l'âge. Parce que c'est à plusieurs reprises, tu avais...
Oui, c'est-à-dire qu'au studio La Nef, donc ça, le studio La Nef, c'est le lieu, mais elle est gérée par la coopérative des arts. Et c'est un lieu où nous accueillons des gens de tous âges. C'est-à-dire qu'on a des pratiques intergénérationnelles. Et en fait, ce sont des pratiques assez ouvertes pour que chacun, là où il en est, puisse y mettre ce qu'il a à y mettre.
Et quelle est l'importance de mettre ça, des personnes de différents âges
à, c'est une grande richesse.
Pratiquer. Pourquoi ?
Oui, c'est vraiment une grande richesse parce que, comment dire, ça évite d'être dans un entre-soi avec des gens qui sont tous du même âge, vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. Et je, par exemple, je pense à une de mes élèves qui me suit en amateur depuis une trentaine d'années. Et qui a un problème aussi, pas que, c'est pas que l'âge, c'est aussi, elle a un problème d'audition, par exemple.
Ok.
Il y a des gens qui peuvent avoir un petit problème d'appui au niveau du sol, ou un léger handicap. C'est important pour nous, l'inclusion.
D'accord.
Voilà. Donc...
Parce que c'est là où on voit les limites de discours, non de... C'est important parce que on était en train de définir le mouvement au début avec Laurence Loop et elle faisait aussi référence aux handicapés, de comment pour définir les limites du mouvement, on était obligé de passer par l'atrophie ou par des personnes qui étaient dans une situation d'handicap pour pouvoir définir ce que c'était pour toutes les personnes valides.
Je suis tout à fait en accord avec ce qu'elle dit. Je ferai référence au fait que... tiens, mince, j'ai mangé ce que je voulais dire, mais ça va revenir très vite.
ça avait été nourri. Il n'y a aucun problème. Oui. On est en train de parler de comment définir le mouvement et comment les limites du corps parfois passent par les situations de handicap.
Voilà, merci. Donc j'ai retrouvé mon fil. Les plus grands pédagogues et enseignants ont eu souvent à dépasser un handicap.
Oui.
Voilà.
Donc, celui qui a inventé
par exemple, la technique Feldenkrais, puisque vous avez reçu Sonia il n'y a pas longtemps.
Oui. Mais on n'a pas eu le temps de parler de la technique.
Oui. Hein.
On a parlé d'autres choses. Mais...
Oui. Moshe Feldenkrais était un grand sportif. Or, un jour, il a eu un accident très grave au genou. Et sa technique, il l'a créée à partir de son accident. Vous voyez ? Et on pourrait citer bien d'autres personnes qui ne me viennent pas à l'idée tout de suite, mais très souvent, c'est à partir d'une pathologie qu'on va développer une façon de vivre la danse et l'art de la danse d'une manière bien particulière.
Oui, il me semble que Javier Zambrano qui a créé le Flying Low, qu'une fois je me suis trompé, j'ai nommé un autre chorégraphe, et je pense que c'est Zambrano qui avait une paralysie des jambes. Et
c'est que bien possible.
À partir justement du torse, tout ce qui était à partir de la mobilité du torse, il a développé toute une technique.
Et d'ailleurs, au studio La Nef, moi j'ai fait partie du collectif Artus, qui était.
Qui était Artus, oui.
Sonia le collectif nous avait... Artus avec Sonia Ankelings, Dominique Noël, Patrick Vendrin et moi-même. On a enseigné à La Nef. Bien avant la coopérative des arts. Et du coup, on a eu au sein du studio La Nef, Thierry Raymond qui a donné des cours de danseurs valides et invalides.
D'accord.
D'ailleurs, il y a un couloir pour les fauteuils roulants.
J'ai pas vu. Il faut que je me promène plus souvent.
Je
vais t'écouper. On va partir un peu dans le passé de la musique européenne de Madrid pour la movida madrileña.
No me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda. Ahí tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate. Sombra aquí, sombra allá. No me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, che, che. Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, puedes mirar. Que ya me he puesto el maquillaje, hey. Y si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar.
Aujourd'hui, dans ce monde de plein d'essor du drag queen et tout ça, on se rappelle de 1979 où a été formé le groupe Mecano de la Movida Madrileña en Espagne par les frères Canon et Ana Torroja, qui a une grande voix et qui a marqué beaucoup l'histoire en espagnol, mais aussi l'histoire en général de quand est-ce qu'on se maquille et quand est-ce qu'on se maquille pas. Et c'est très cher à nous, pour nos oreilles. On est en train de parler hors microphone avec François Texier, l'invité de cette émission hebdomadaire, une danseuse pédagogue, formatrice et autrice des danses.
Je suis auteur de pièces chorégraphiques.
Donc des pièces. On en avait parlé.
Et ça, c'est avec mon groupe amateur de création.
D'accord.
Qui travaille avec moi depuis des années, depuis très longtemps. Et ce sont des gens qui sont amateurs, pourquoi ? Parce qu'ils ont un travail, mais sinon on pourrait travailler toute la journée
ensemble. Toute la journée. Et je voudrais juste savoir dans quel code tu les produis. C'est de l'écrit verbal, c'est des dessins, tu utilises un système de notation ?
En ce moment, on travaille par rapport à la musicalité.
Mm-hmm.
J'ai découvert, c'était au Festival Radio France l'été dernier.
Oui.
Il y a eu le concert d'une pièce de Steve Reich qui s'appelle Musique pour 18 musiciens.
On parlera tout à l'heure de la référence.
Et c'était fabuleux. Et donc, du coup, cette musique m'a inspirée.
Mm-hmm.
Et on est parti de là.
D'accord.
Pour travailler sur Steve Reich. Il faut dire aussi que cette pièce musicale a été utilisée par Anne-Thérèse de Kersmaeker.
Oui. On va les laisser pour la fin parce qu'on en avait prévu d'en
d'accord,
parler des références.
Pas de souci.
Mais si, on en parlera. Donc, on est en train de réfléchir à la question de la transmission. Donc,
oui.
Bien évidemment, toi, tu as une expérience immense dans la pédagogie, dans le partage des connaissances et dans la transmission. Mais ma question est toujours un peu décalée parce que c'est la transmission en dehors de l'école. Et toi qui sais que la danse est une discipline très indisciplinée, t'en penses quoi de cette transmission ? Elle est où et comment ?
Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. La transmission, pour moi, c'est d'abord la transmission du répertoire à des danseurs.
Oui.
Ça, c'est une chose. Mm-hmm. Après, il y a la transmission dans la pédagogie, ce qui est mon cœur de métier, tout à fait. Et donc, j'en pense quoi ? C'est très différent. C'est-à-dire que dans le cadre des jeunes que je forme pour le diplôme d'État, les professeurs de danse, par exemple, j'accueille des classes d'enfants parce que ces jeunes vont enseigner aux enfants sous ma tutelle. Mmh. Et donc, du coup, on voit bien le parallèle, ou la différence plutôt, qui se passe à l'école. L'institutrice en général est là, elle veut intervenir, elle veut à tout prix que ses enfants soient tirés au cordeau. Et moi, je leur dis, détendez-vous. Et je dis, ne vous inquiétez pas, on prend tout en charge. Mmh. Et du coup, les enfants, on travaille avec des notions. Avec des notions, justement, comme je disais tout à l'heure, d'équilibre, de déséquilibre, de points, le mouvement qui part d'une partie du corps et qui va quelque part, et tout ça, on les emmène dans un voyage, les enfants. Et souvent, un voyage imaginaire aussi. Mmh. Et donc là, l'enfant peut se sentir libre de mettre ce qu'il a à dire de lui-même.
Ok, oui, parce qu'il y a forcément toujours une petite injonction quand on travaille la danse, quand on travaille la technique, non ? De quelque chose d'un peu strict, d'un peu... Oui. Qui demande trop à l'esprit. Et donc là, tu nous...
Alors là, je parle des enfants de 4 à 8 ans.
Ah oui,
c'est-à-dire
c'est
les grandes sections de maternelle, les classes de CP et de CE1. Donc là, on ne peut pas mettre l'enfant dans un moule technique. Mmh. Donc, on part des fondamentaux de la danse pour les amener à développer leur danse.
Développer,
voilà, oui. Voilà. Après, s'ils veulent aller suivre des cours techniques avec un professeur sur Montpellier, pourquoi pas ? Mais entre 4 à 8 ans, il y a d'ailleurs une loi qui est passée par le ministère de la Culture qui bannit la technique avant l'âge de 7-8 ans.
Ok, ça je ne connaissais pas, faut la chercher,
et oui.
Tu m'en diras. Et un geste, si on peut décrire un geste à la radio, un pas des danses, quelque chose qui pourrait passer à travers les oreilles des auditeurs, auditrices, dans ton expérience, dans ton imaginaire, qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas ?
Alors déjà, pour moi, l'immobilité, c'est déjà du mouvement. Tu parlais tout à l'heure du pré-mouvement de Hubert Godard. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire la présence sur un plateau, un studio de danse et un plateau aussi. Mmh. Et des fois, nous, on a des invités pour assister à des restitutions de travaux, tu vois. Et donc, déjà, la présence de la personne. Qu'elle ait conscience de ses volumes, qu'elle ait conscience de ses appuis, qu'elle ait conscience de l'alignement de son corps qui n'est pas une rigidité. Et à partir de là, par exemple, elle va donner son poids dans le sol et le sol va lui renvoyer
oui.
sa direction opposée. On appelle ça la force gravitaire et antigravitaire.
Mmh.
Voilà. Et si je lève un bras, je ne le lève pas forcément par la force musculaire. Je vais le lever par la gravité, par mes appuis. C'est-à-dire que mon port de bras, il va partir des pieds. Il va partir du sol.
Oui.
Pour que tout d'un coup, le bras se lève parce qu'il y a toute la structure osseuse qui s'empile et qui fait que, paf, le bras, ça fait levier.
Oui.
Et non, c'est pas, on n'est pas avec la musculature. On est sur l'axe central, beaucoup en danse contemporaine. Sur la suspension, sur le poids. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Oui, beaucoup, beaucoup plus de ce que je cherchais, bien sûr. Tu m'as dit que tu as une âme de chercheuse. Pourquoi ?
Une âme de chercheuse. Peut-être que le mot âme est un peu...
Non, il correspond très bien.
Oui, depuis des décennies, ça m'intéresse de voir... des fois, les élèves me reprochent un petit peu de ne pas être assez encourageante, par exemple.
Okay, pourquoi ?
Parce que je suis tout le temps en train de chercher l'outil qui va leur convenir sur le moment pour les faire avancer.
Oui.
Et donc, je suis tellement là-dedans de les emmener toujours plus loin, en fait, que j'en oublie de les encourager, peut-être. J'en sais rien, d'ailleurs. Mmh, mmh. Je pense que je les mets en confiance.
D'accord.
Et pour moi, ça suffit.
Ça suffit. Ok, oui, les rapports, c'est tout un travail. J'ai été pédagogue moi-même
c'est un
travail délicat, périlleux, difficile.
Oui, demande une grande qualité d'écoute et une qualité relationnelle aussi importante.
La question des luttes, pour toi, ça ne t'avait pas trop fait écho? On en avait parlé des impulsions, des suggestions, de tous ces mouvements qui impulsent la vie au quotidien de ceux qui font la danse, de ceux qui pensent la danse. Et pour toi, tu m'avais parlé que pour toi, c'était accompagner le mot qui venait.
C'est important pour moi d'accompagner les gens dans leur singularité.
C'est ça.
Dans le respect de ce qu'ils sont et de leur ouvrir des portes. Voilà. S'il y a lutte, elle se situe là, c'est-à-dire d'aider les personnes à trouver un maximum de liberté dans leur danse, tout en restant dans un cadre rigoureux aussi.
Un cadre, oui, en respectant certaines règles. Ouais.
Il y a la contrainte, et à l'intérieur de la contrainte, trouve une liberté.
Absolument.
Voilà. Après, la lutte, il y a des chorégraphes qui sont dans la lutte, c'est-à-dire qu'ils ont un message politique à faire passer.
Oui.
Ça, c'est autre chose.
C'est autre chose, mais je pense qu'on a tous, on confronte tous d'une certaine façon une difficulté quelque part.
Oui.
Donc, on ne doit pas être obligé à être militant pour.
C'est ça.
Pour amener des questionnements dans sa pratique. Donc, pour moi, c'est important de relever ça à chaque personne, parce que chaque personne l'amène d'une façon très différente, très singulière.
Oui.
Mais il vaut la peine de l'évoquer. Et on va fermer, parce que le temps radio, c'est toujours très compliqué, très court. On aimerait que ça soit plus long. Et on va finir avec les références, non ? Avec ces références qui nous sont communes. Et tu veux dire quelques-unes pour pas que je parle.
Alors, les références, on va dire les gens qui m'inspirent, parce que des références, il y en a énormément.
Énormément. Bon.
Voilà, et au fil de ma carrière, de ma vie... Il y a des chorégraphes qui m'ont plus inspiré que d'autres.
Oui, les chaises ici, elles sont vivantes. Vous les entendez au fond.
Bon. Donc, les personnes qui m'inspirent, d'abord, il y a une grande dame de la danse qui s'appelle Anna Alprin.
Anna Alprin, et tu sais la nationalité, non ?
Elle est californienne.
Californienne, des États-Unis.
Oui, oui. Et c'est quelqu'un qui s'est installé dans les années 50 dans un lieu en pleine nature, sur les bords du Pacifique, et qui a commencé à travailler. Elle a cette spécificité d'avoir travaillé dehors, en plein air.
Okay.
Elle avait bien sûr aussi un studio, mais... c'est quelqu'un qui a développé énormément la danse en lien avec la nature.
Avec la nature.
Mais à un point extrême, vraiment. Et c'était dans les années 50.
Les années 50.
Et par exemple, une chorégraphe comme Trisha Brown est venue travailler avec elle. Elle a inspiré tous les gens de la post-modern danse.
Oui.
Simone Forti, Yvonne Renner, Steve Paxton.
Steve Paxton.
Merce Cunningham est venue travailler avec elle. Et Trisha Brown.
Quelle époque, hein, 20e siècle.
Ah, c'est les années 50-60.
Et j'aimerais que tu nous parles de ce qu'on avait promis avec Steve Reich, cette chorégraphe qui a dansé
Alors, autre chorégraphe qui m'inspire énormément, c'est Anne-Theresa de Kersmaeker. Qui travaille bien sûr depuis toujours avec les relations musique-danse et qui nous donne à voir sur scène, elle nous donne à voyager à travers les œuvres musicales avec le mouvement dansé, avec énormément de subtilité et de finesse. Voilà. Et donc, à partir de cette pièce musicale, il se trouve qu'elle a créé une pièce qui s'appelle Rain. Rain, la pluie.
Rain.
Voilà. Elle l'a même recréée sur le plateau de l'opéra avec les danseurs de l'opéra. Et moi, j'aime observer faits et gestes, hein, c'est pas pour rien. J'aime observer la danse et j'aime voir sur quoi elle repose. Les processus qu'on ne voit pas sur scène, c'est absolument ça qui m'intéresse.
Sur quoi elle repose, comme si la danse ouais. était un petit insecte, un petit oiseau qui se pose quelque part dans cet univers de la limitation du temps. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Merci beaucoup Françoise Texier d'avoir partagé avec nous.
Merci à vous.
Et je vous retrouve avec plein de beaux mouvements et je vous souhaite beaucoup de déhanchés et de beaux mouvements.
Alors tu veux faire danseur?
And push and turn and people tap.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez.